Chapitre 28. Pierre Norman roula le bord de son bonnet pour libérer ses oreilles de l'étreinte de laine. Avant chaque intervention, son corps tout entier grimpait en température. Dans les montagnes russes de l'enquête criminelle, le lieutenant à la chevelure de feu vibrait pour cet ultime moment, cette dernière chute à la pente vertigineuse. Il se tenait plaqué contre la façade d'un plain-pied contemporain, bâti au détour d'une route, à l'orée d'une forêt de pins. Une habitation isolée, aux volets fermés, l'endroit idéal pour se livrer à des activités occultes. De l'autre côté de la porte, un chien aboyait à tout rompre. « Tu es prêt ?» fit-il au lieutenant Colin dans un nuage de condensation. « Pas de problème, on peut foncer. Et vous, ne manquez pas le chien. » Norman agita la main. Un bélier avala la porte et dévoila les perspectives intérieures dans un craquement de bois. Une flèche anesthésiante se logea dans le poitrail d'un Doberman, lui laissant à peine le temps de planter ses crocs dans la combinaison en polymol d'un maître chien. 6 hommes pénétrèrent par groupe de 2, les Beretta contre les joues, les pointes des canons dévorant l'espace sous l'appui des lampes torches. Une fois la lumière allumée, les volumes se tendirent, exhalant leur bouffée d'inconnu. Les policiers s'approprièrent les pièces avec méthode, gorge serrée et front luisant. « Rien dans les chambres !» souffla une voix. « Cuisine vide !» poussa une autre. Norman s'intéressa aux éléments qui composaient l'espace du salon. Le décor, le style, l'architecture. Rien de particulier. Des bibelots inutiles, une cheminée aux bûches consumées, des murs peints en blanc parsemés de fresques aux motifs géométriques. Des cadres, des posters. Aucune photo. Le policier s'attendait à découvrir un musée de l'horreur, une fosse à animaux empaillés, un cimetière de gueules pétrifiées. Au téléphone, le capitaine Ravies devait parler du penchant taxidermiste de l'assassin. Où la vétérinaire dissimulait-elle ses trophées? Et surtout, dans quel recoin retenait-elle la petite diabétique? H moins combien déjà? Elle se trouve là, sous mes pieds. Norman s'approcha d'une porte au fond du salon, l'ouvrit avec prudence. Il perçut une excitation sur le palais lorsque jaillirent les ténèbres. Il s'adressa à Colin. « Une cave, je descends. » Colin la grippa par l'épaule alors que l'obscurité l'engloutissait déjà. « Une cave? C'est peut-être là-dessous qu'elle retient la petite. Je t'accompagne, pas la peine. L'endroit semble étroit, on risque de se marcher dessus. Va chercher l'architecte dans la voiture. » La tignasse rousse du policier se laissa avaler par le dévers de béton qui dévalait dans les entrailles de l'habitation. Une ampoule timide nuançait les parois en esquisses floues. Norman s'appuya sur le faisceau de sa lampe, l'arme tendue, la main alourdie par la tension nerveuse. Son index s'enroulait sur la gâchette, sa langue courait sur ses lèvres en ellipse humide. En contrebas, l'escalier vrillait sur la gauche. L'obscurité reprenait peu à peu ses droits. « Calme-toi, respire. Tu contrôles la situation. » Des bruits de pas au-dessus de sa tête. Ses collègues, probablement. Les marches l'abandonnèrent dans une espèce de sas oblong qui débouchait sur une porte entrouverte. Le cœur de la machinerie meurtrière. Le cavalier solitaire cala ses pas sur le rythme lent de sa respiration. Il contourna des bocaux poussiéreux, pleins d'une substance noirâtre, s'approcha de l'entrebâillement en se plaquant contre les murs. Sa jugulaire avait triplé de volume, oxygénant son cerveau et décuplant sa lucidité. Ses pupilles dilatées dans le lac bleu de son œil lui conféraient des allures de félin à l'affût, un genre de chat sauvage aux griffes rétractées, mais prêt à la serrer. « Sortez ! Police !» Pas un bruit. Monochromie auditive. « Et si elle était là, juste derrière, prêt à te trouer le crâne ? Tu évolues sur son territoire. Remonte chercher une lampe plus puissante et des équipiers. » Ses instincts de prédateur eurent raison des avertissements. Le souffle bloqué, il roula le long du mur et pénétra accroupi dans la cave, son arme et sa lampe éventrant l'espace en diagonale tranchante. Des masses immobiles s'accrochèrent aux raies dorées. Des scintillements de métaux, des reflets de cuir lustrés. Norman plissa les yeux, comme si sa conscience refusait d'assimiler les bribes d'informations qui surgissaient. Il promena une main à tâtons contre les parois et dénicha un interrupteur. L'espace flamba, flashant le policier d'une lumière aveuglante. Quand les deux grands cercles blancs se dissipèrent au devant de ses rétines, il n'en crut pas ses yeux. L'enfer. enfer. Il avait mis les pieds en enfer. L'endroit était peuplé de matériel sadomasochiste, d'instruments de torture suggérant l'antre-secret d'un bourreau moyenâgeux. Des croix à supplice, des tables de contention, des espèces de cages pour oiseaux géants, fouets, cravaches, masques de cuir, étaient étalés sur des présentoirs tapissés de vinyle noir. Des menottes, toutes sortes de chaînes et de colliers, décochaient des reflets bleutés, aux côtés d'étaux, de boîtes de clous et d'une batterie 12 volts dont on devinait l'utilité. Norman s'élança dans la pièce, bascula les établis, les cages, arracha les draperies de nylon, élan à s'égosiller le prénom d'Éléonore. « Éléonore, c'est la police. Nous sommes là pour t'aider. Réponds. Réponds !» Il s'adressait au mur, à cette imperméabilité sans âme, cognait du poing à s'écorcher les jointures sur les parois muettes. « H moins combien ?» Colin et l'architecte le rejoignirent. « Nom de Dieu !» s'exclama Colin en roulant des yeux hagards. « Pas de trace d'Éléonore ?» Norman répondit par la négative. « Elle doit bien être quelque part. Il est encore temps de la sauver. Ils ont parlé de 50 heures d'autonomie. Il reste quoi ? Aidez-moi à chercher, pas une seconde à perdre !» L'architecte lui posa une main sur l'épaule. « Laissez-moi faire mon métier. Je vous garantis que s'il existe une pièce secrète dans ce capharnaüm, je la dénicherai. » L'homme commença son travail d'inspection, caressant les parois avec un détecteur qui affichait des nuées de chiffres incompréhensibles. « La maison est vide, » assura Colin en s'adressant à Norman. « Pas de voiture dans le garage. Ses armoires à vêtements sont encore pleines et parfaitement rangées, ce qui exclut a priori le départ précipité. » Norman ferma les poings, les lèvres serrées en une cicatrice charnelle. « Il faut qu'on la coince le plus rapidement possible. On ne peut pas échouer si près du but. L'enfant, sauvez l'enfant. Quel sort cette Clarisse Vervec a-t-elle pu réserver à la gamine ?»« Avoir le matériel, je n'aimerais pas tomber entre ses mains, » répliqua Colin. « Imagine, manier de la chair animale, empailler des bêtes à longueur de journée. Des traces d'animaux empaillés ? Aucune. Elle doit avoir une autre planque. Merde, c'est pas possible autrement. » Norman s'adressa à l'architecte. « Alors ? Néant. Pas de pièces secrètes ni de cavités. La structure des murs est monobloc, parfaitement lisse et bétonnée. La petite ne se trouve pas dans cette cave. » Norman sortit de l'ombre. « On remonte. Il faut fouiller de fond en comble, y compris le jardin et les environs. On doit la retrouver. Mon portable est déchargé, Colin. Avertis le commissaire qu'on est bredouille. Qu'il lance les procédures de recherche et nous envoie une équipe supplémentaire. Qu'on positionne aussi une voiture civile en bord du chemin, à 300 mètres du domicile. Si ce démon débarque ici, on lui tombe dessus. » Les trois hommes s'élancèrent vers le rez-de-chaussée. Un brigadier-chef interpella Norman. « Lieutenant, vous devriez venir voir, dans la chambre, la chose était dans une boîte, sous le lit. Quoi ? Je peux pas vous expliquer, venez !» Norman lui emboîta le pas, fourrant son bonnet dans sa poche et tirant la fermeture de son blouson. « Ne me dites pas que... » bégaya-t-il. « Non, il ne s'agit pas du corps de la petite. » « Quoi alors ? Sa tête tranchée, un organe, des doigts coupés ?» Dans l'esprit du lieutenant, l'euphorie de l'instant avait laissé place à l'horreur de l'échec. Le policier se sentait impuissant, inutile, spectateur du désastre. La fillette gisait peut-être à 100 mètres d'ici, à 2 kilomètres, ou à l'autre bout de la région, comment savoir ? Et le piège des minutes qui s'enroulait autour de sa gorge, imperturbable. La prédatrice était encore en liberté, cachée quelque part dans une forêt, au sommet d'une tour ou dans l'anonymat de la grande foule. Dans quel endroit sordide retenait-elle la fillette ? À quel jeu cruel Clarisse Vervec se livrait-elle dans son sous-sol maudit ? Combien de femmes, d'hommes, d'enfants soumis étaient passés sous le joug de ses instruments de torture et de ses fantasmes délirants ? Combien d'enfants ? Ils arrivèrent dans la chambre. « C'est là. On l'a posée sur le lit. » dit le brigadier-chef d'un air halluciné. Norman leva lentement les yeux. Le monde s'écroulait. « Bon sang, elle est horrible !» Sur les couvertures, une poupée difforme au crâne piqué de poils drus et noirs, une face de peau perforée d'un entrelac de fils à suture. Pas d'yeux, juste des cavités sombres, des joues creuses, une bouche sans lèvres, immonde. Et le ruban rouge, noué en cocarde sur le tissu couvrant la poitrine. Le symbole des Beauty Eaton. Le lieutenant se pencha par-dessus le lit et fit glisser ses doigts sur la face brune. Oh. Bon. Les mots se bloquèrent. Ses phalanges palpaient le faciès avec l'obstination d'une trompe de mouche explorant un morceau de sucre. La texture, la finesse, l'odeur. Il ne se trompait pas. C'est la vraie peau. Et... Ses ongles s'enfoncèrent dans le cou grotesque, dévoilant un jeu de veines et de tendons pétrifiés. Seigneur Dieu, vous devriez éviter de toucher, osa son collègue. Norman s'empara de la poupée, arracha les coutures qui joignaient les morceaux de tissu du bras droit et aperçut le patchwork de peau, rapiécé avec du fil de soie. Sous l'emprise d'une rage féroce, dents serrées, il déchira littéralement le corps en deux. Le pire se nichait à l'intérieur. Des réseaux de veines, d'artères gonflées de cire rouge et bleue, un cœur, un foie dur comme la caillasse, une cage thoracique minuscule, un tas de petits os, des fémurs, des tibias, des cubitus. Un squelette complet. Norman restait agenouillé, bouche ouverte. Il tenait entre ses doigts une petite étiquette, arrachée à l'entrejambe de la poupée. Dessus, une phrase, écrite à l'encre indélébile. « On en a d'autres !» intervint un policier depuis une pièce voisine. « Cachés dans des boîtes, au-dessus d'une armoire. J'ai jamais vu ça de ma vie !» Mais l'inscription sur le rectangle de nylon avait pétrifié les muscles de Norman, lui interdisant de se relever.